Le journal des Amériques et d'Haïti, je vous laisse en compagnie d'Anne Verdaguer. Anne, bonjour.
Bonjour Gilles et bienvenue à tous. On ira au Brésil aujourd'hui pour parler de criminalité, de la hausse des violences dans les favelas. À Rio, du coup, l'armée a décidé de fermer un tiers de ses postes de police pacificatrice, les UPP, mis en place en 2008 sur fond de bavures policières et de corruption. On parlera également dans la revue de presse de Stéphanie Schuller de l'effondrement spectaculaire de cette tour à Sao Paulo après un incendie. On ne connaît pas le nombre de victimes, mais cela crée une polémique autour du mal logement au Brésil. La campagne électorale au Venezuela, notre correspondant Julien Gonzalez a suivi le principal adversaire du président Maduro, le dissident chaviste Henri Falcon. Et puis en Haïti, on fait le bilan un an après l'annonce par le président Jovenel Moïse de la caravane du changement, un vaste programme pour pallier aux besoins sanitaires, alimentaires ou encore médicaux du pays. Mais pour quel budget, Amélie Baron nous en dira plus. À Rio de Janeiro, les autorités ont donc décidé de fermer 12 des 38 unités de police dites pacificatrices, les UPP, installées en 2008, notamment dans les plus grandes favelas de la ville et à proximité des quartiers touristiques. C'était dans la perspective du Mondial 2014 et des Jeux Olympiques de 2016. On retrouve notre correspondant François Cardona à Rio. François, le constat de cet emblématique programme de l'armée est désastreux puisque depuis l'arrivée des militaires dans ces zones dites de non-droit, les confrontations, la criminalité, et la violence liée au trafic ont augmenté et la crédibilité de ce programme a très vite été mise en question.
Oui, les autorités viennent de décider la suppression d'un tiers des UPP, les unités de police pacificatrices et commissariats de quartier implantés dans plus d'une trentaine de favelas de la ville pour tenter de réduire l'influence des trafiquants de drogue. Les UPP les plus importantes, les plus grandes, vont être démantelées, comme celle de la Cité de Dieu, tristement connue pour sa violence, sa criminalité endémique, l'immense favela de Rocinha, située tout proche des quartiers chics et des plages touristiques. Carrefour du trafic de drogue et théâtre de très violents affrontements ces derniers mois, va également perdre ses policiers de proximité.
Alors pourquoi une telle décision, François, alors même que la criminalité est repartie à la hausse ces derniers mois à Rio de Janeiro ?
C'est le général Braga Neto en charge de la sécurité publique de Rio qui a décidé de tailler dans le budget des UPP, contraint, affirme-t-il, par la crise économique qui a épuisé les ressources de la ville, mais aussi par l'absence de résultats notoires de ces unités de police dans les favelas qu'elles sont censées contrôler. Les UPP avaient été mises en place, comme vous l'avez dit, dans les quartiers violents de Rio avant la Coupe du Monde de football et des Jeux Olympiques. Des centaines de millions d'euros ont été dépensés. Alors cette décision prise par un militaire provoque une vaste controverse au moment même où l'armée n'a jamais été aussi puissante à Rio de Janeiro depuis la fin de la dictature militaire. En réaction à la hausse de criminalité, le gouvernement a confié l'ensemble des forces de police à l'armée, à un général, alors que les policiers des UPP se plaignaient depuis plusieurs années déjà d'un manque récurrent de financement pour leurs équipements de base, comme les gilets pare-balles.
C'est donc l'armée qui est en charge de la sécurité à Rio. Depuis l'intervention de ces militaires dans la vie publique de la ville, quels sont les résultats obtenus ?
Alors l'année dernière, plus de 6700 morts violentes ont été recensées dans la ville. Ce chiffre affolant, en augmentation constante, avait conduit le président Michel Temer à décider l'intervention militaire en février dernier. Pourtant, quelques mois plus tard, l'armée est aujourd'hui montrée du doigt pour son absence de progrès, avec au contraire des exactions commises par les soldats. L'Observatoire de l'intervention militaire vient de publier son premier rapport sur la présence de l'armée à la tête des forces de l'ordre de Rio. Le résultat est catastrophique. Les experts dénoncent l'absence de programme, de résultats, de gouvernance. De fait, depuis l'arrivée des militaires à Rio, les confrontations, la criminalité ont augmenté. La réduction du nombre d'unités de police dans les quartiers défavorisés risque d'empirer cette situation déjà critique.
Merci beaucoup François Cardona, notre correspondant à Rio de Janeiro. Au Venezuela, la campagne présidentielle a débuté il y a une dizaine de jours et pour le moment, elle est loin de passionner les foules dans un contexte économique très difficile avec un taux d'inflation qui pourrait atteindre plus de 1300% cette année. Le président Nicolas Maduro, candidat à sa réélection, promet le retour de la prospérité s'il est réélu le 20 mai prochain. Face à lui, Henri Falcon fait figure de principal adversaire, dissident du chavisme. Il propose notamment de dollariser l'économie afin de lutter contre cette hyperinflation qui ronge le pouvoir d'achat des Vénézuéliens. Lors du 1er mai, hier, journée internationale des travailleurs, Henri Falcon s'est rendu à l'est de Caracas, à Petare, l'un des plus grands bidonvilles d'Amérique latine. Notre correspondant au Venezuela, Julien Gonzalez, l'a suivi dans ce déplacement.
Même si Henry Falcón devance Nicolas Maduro dans plusieurs sondages, il n'y avait pas foule ce mardi pour le suivre dans le quartier pauvre de José Félix Ribas. Mais le candidat l'assure, les déplacements spontanés comme celui-ci permettent d'être au plus près de la population.
Le gouvernement de Maduro ne fait qu'offrir la misère aux gens. Être dans ce quartier populaire, c'est une manière de réaffirmer notre engagement à défendre tous les secteurs de la société, et plus particulièrement les plus pauvres. Je veux répondre à l'espoir de tout un peuple qui veut un destin meilleur.
Un discours qui convainc à 100% Pedro Caraballo. Cet électeur d'opposition y croit, mais pour lui, la clé de la victoire sera dans la participation.
Moi, j'ai la foi. Il peut être le prochain président, mais les gens sont résignés. Il y a beaucoup de Vénézuéliens qui disent qu'ils n'iront pas voter. Je lance donc un message à tout le monde. Il faut que nous sortions tous voter pour qu'il y ait un changement.
Des électeurs d'opposition pour le soutenir, mais aussi des chavistes déçus comme Gustavo, qui votera pour lui le 20 mai prochain.
J'ai été un chaviste de cœur, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Nicolas Maduro n'a pas répondu aux attentes qu'avait laissées le commandant Chavez. Parmi les quatre candidats d'opposition en lice, celui qui sait le plus faire bouger les choses, en politique comme en économie, c'est Falcón. C'est celui qui peut le plus nous aider à sortir de cette situation.
Henry Falcón a promis de multiplier les déplacements dans tout le pays d'ici la fin de la campagne prévue le 17 mai prochain. Julien Gonzalez, Caracas, RFI.
Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On vous retrouve pour la revue de presse des Amériques. Cette campagne présidentielle au Venezuela est à la une des quotidiens aujourd'hui.
Ouais, le journal El Nacional appelle aujourd'hui ses lecteurs à l'abstention. Le journal souligne le vide de cette campagne électorale ainsi que le peu de ferveur qu'elle soulève. Des preuves supplémentaires s'il en fallait que les Vénézuéliens ne se trouve pas face à un scrutin démocratique, mais face à ce que El Nacional qualifie de parodie, qui a pour seul but de permettre au président sortant Nicolas Maduro de poursuivre la terrible hégémonie du socialisme du 21e siècle, une parodie dont il faut donc s'éloigner à tout prix, estime le journal d'opposition. Comment ? Eh bien, en n'y prenant pas part. Mais l'abstention seule ne suffit pas. Il faut des propositions concrètes pour regagner la confiance de la société vénézuélienne, une feuille de route clair pour un calendrier post-élection qui doit être établi au plus vite par la MUD, la coalition d'opposition estime El Nacional.
On en parlait tout à l'heure au Brésil, l'effondrement spectaculaire d'une tour de 24 étages en plein centre-ville de la mégalopole Sao Paulo suscite la polémique, Stéphanie.
Cette tour qui appartenait à l'État fédéral mais qui a été laissée à l'abandon depuis 2009 a été occupée par 150 familles sans domicile fixe, rappelle le quotidien Estadão aujourd'hui, qui parle d'un drame annoncé. La tour s'est effondrée à l'aube hier après avoir été ravagée par un gigantesque incendie. Le nombre de victimes n'est pas encore connu, constate le journal, mais la préfecture parle d'au moins 44 disparus.
Et cette tragédie relance le débat sur le mal logement endémique au Brésil.
Absolument, Anne, ce qui manque dans la plus grande ville du pays qui est Sao Paulo avec ses 12 millions d'habitants, c'est un projet d'habitat permettant de protéger les trop nombreux sans-abri, écrit Estadão, qui critique du durement les autorités, aussi bien locales que fédérales. Pas plus tard qu'au mois de mars dernier, la municipalité avait décidé de classer sans suite un rapport qui mettait en exergue justement les risques émanant de cette tour, rappelle le quotidien, avant de conclure. Selon la préfecture, des centaines d'immeubles de Sao Paulo sont actuellement occupés de manière illégale. Espérons que la tragédie de ce mardi serve de leçon et ne soit pas seulement un mauvais présage.
Et pour le journal Folha, les responsabilités dans ce drame sont au contraire partagés.
S'il est vrai que les politiques publiques ont échoué à garantir un toit à chacun, les mouvements des sans-abri, eux, incitent de façon irresponsable à l'occupation d'endroits inhabitables en s'appuyant justement sur le laisser-faire de l'État. Est-ce que nous serions d'ailleurs en train de nous habituer à ce genre de risque, s'interroge Folia, pour qui le plus choquant dans ce drame est le fait qu'il n'ait surpris personne.
Direction la Colombie à présent, Stéphanie, deux soldats ont été tués, un autre blessé hier dans une attaque dans le sud du pays et qui a été une nouvelle fois imputé aux dissidents de l'ex-guérilla des FARC.
Oui, l'attaque a eu lieu ce mardi dans le département de Guaviare. Une unité de soldats a effectué des contrôles de routine quand ils ont été attaqués avec des engins explosifs, rapporte El Espectador. Les autorités attribuent ce nouvel attentat au 7e front, un groupe de dissidents des FARC, avec à leur tête un ex l'ex-dirigeant de l'ancienne guérilla, Miguel Botache Santilla, alias Gentil Duarte.
Et cet homme n'est pas un inconnu en Colombie.
Bien au contraire, souligne Semana, Gentil Duarte est même l'un des délinquants les plus recherchés du pays. L'hebdomadaire rappelle qu'il fut expulsé des FARC il y a 2 ans après avoir refusé de déposer les armes et de s'engager dans le processus de paix entre la guérilla et le gouvernement colombien. Toujours selon Semana, Gentil Duarte ne dirigerait pas un, mais 6 groupes d'anciens guérilleros et contrôlerait une bonne partie du narcotrafic avec des contacts étroits avec des cartels mexicains et brésiliens. Et Semana de conclure que le problème ne fait que s'aggraver. Désillusionnés, de plus en plus d'anciens guérilleros quittent le processus de paix pour rejoindre les groupes délinquants.
En Haïti, de nouvelles violences se sont produites hier dans les quartiers sensibles de Port-au-Prince.
Une personne aurait été tuée par balle à Martisson après des affrontements entre gangs rivaux, rapporte Alter Press aujourd'hui. La victime supposée serait un Ougan, un prêtre voodoo. C'est l'enterrement d'un chef de gang tué la semaine dernière qui aurait déclenché les hostilités entre les deux gangs. Contacté par Alter Press, la police n'a toutefois pas confirmé cette information. Depuis quelques semaines, le dossier des gangs armés qui font la loi dans les quartiers populaires a refait surface après la disparition à Grand Ravine du photojournaliste Vladimir Le Gagneur le mercredi 14 mars 2018, rappelle encore l'agence haïtienne.
Merci beaucoup Stéphanie Schuller.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et on reste en Haïti où c'est l'heure du bilan, puisque cela fait un an que Jovenel Moïse a lancé son programme, la Caravane du Changement, dont l'un des principaux objectifs est d'augmenter la production nationale du pays pour améliorer les besoins alimentaires, sanitaires ou encore médicaux. Pour ce premier bilan, le président haïtien avait convoqué la presse lundi pour défendre ce qu'il juge être les réussites de cette stratégie. Le 1er mai de l'an dernier, une colonne d'engins lourds ont notamment entamé une série de travaux d'infrastructures dans la vallée de l'Artibonite. Depuis, cette caravane est passée dans près de la moitié des départements du pays. Qu'en est-il de ces projets aujourd'hui et surtout du budget? Car une question reste toujours sans réponse. Quelles sont les sommes déjà dépensées? À Port-au-Prince, le dossier signé de notre correspondante Amélie Baron.
400 km de canaux irrigués, 1000 tonnes de semences distribuées, des pépinières créées, des routes agricoles viabilisées et des salles de classe réhabilitées. Le bilan de la caravane dressée par la présidence ne manque pas d'exemples de travaux déjà réalisés, mais jamais le coût de ces réalisations n'est précisé. Dans son long discours lundi, Jovenel Moïse a clairement expliqué qu'il ne fallait pas attendre de détails sur le budget.
Moi, je voulais ça clair dans la tête de tout le monde.
Je veux que ça soit clair dans la tête de tout le monde, ceux qui demandent quel est le budget de la caravane n'est pas un programme, ça n'est pas une institution, la caravane c'est une stratégie qu'un président a mis sur pied avec une équipe en disant qu'il était l'heure de mettre l'État au service du peuple. C'est pour cela qu'il y a une coordination au sein de la caravane et qui donne un rapport chaque jour. C'est ça la caravane, ça n'est pas une boîte noire qui donne de l'argent à des gens, la caravane n'est pas un ministère, ce sont les ministère qui exécute le travail.
Lundi, Jovenel Moïse a aussi signalé qu'il voulait relancer le projet de développement touristique de l'île Lavache, lancé par l'administration Martelly, mais aujourd'hui au point mort.
À ceux qui veulent établir de gros projets touristiques dans l'île, sachez que l'État va construire des routes, va installer le courant et aussi de l'eau. Selon les rapports, l'île Lavache subit un déficit hydrique de près de 80 mètres cubes par heure. On peut installer un système de désalinisation comme ça se fait dans tous les pays. Pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire? Prendre de l'eau de la mer, en retirer le sel, amener l'eau sur l'île pour avoir 100 mètres cubes par heure, afin que tous ceux qui veulent développer de gros hôtels puissent trouver de l'eau, du courant et des routes. On ne va pas attendre et voir seulement les problèmes du pays que l'on dirige. Il faut venir avec les solutions.
Et puis, ces problèmes seulement pour nous. C'est pour nous donner la solution.
Combler le déficit en eau à l'île Lavache, le projet est évidemment séduisant, mais le président n'a fourni aucun détail sur le coût. Jovenel Moïse veut s'inscrire dans l'action. En santé, en éducation, en sport, il s'agit de tout construire et tout développer. Tout de suite.
Maintenant, nous avons l'obligation de construire 15 000 salles de classe dans le pays. Et c'est ce qu'on va faire. Au niveau de la santé, 122 sections communales n'ont pas de centre de santé. Mais il faut qu'ils soient construits et tout de suite. On ne peut pas attendre et dire que l'on va construire 3 centres de santé cette année. Et l'année prochaine, on en construira 6 de plus. Non, il faut que l'on construise 122 centres de santé maintenant. Pour les hôpitaux de base, il y a une série de communes dans le pays qui n'ont pas ces services. Il faut savoir combien de communes fortune cela représente, afin de construire tous ces hôpitaux de base immédiatement. Les infrastructures sportives, on a près de 30 terrains construits à travers le pays. Beaucoup d'autres endroits méritent d'avoir le leur aussi. Non seulement il faut réhabiliter ce que l'on a, mais en plus, il faut en construire là où il n'y en a pas. Aucun pays sur Terre ne vit sans infrastructure.
Jovenel Moïse veut combler tous les manques en infrastructure sans dire comment tout cela sera financé. En juin l'an dernier, les porte-paroles de la présidence avaient annoncé que pour l'Artibonite, le budget de la caravane avait été de 197 millions de gourdes. Pour les départements du Sud, d'Enip et de la Grand'Anse, le budget avait été estimé à 3,5 milliards de gourdes, soit environ 45 millions d'euros. Combien de cette somme a déjà été dépensée? Combien a été investi dans les autres départements? Ces questions restent encore sans réponse. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et on retrouve à présent le journal des Outre-mer, le journal La Première Caraïbe, présenté par Edwige Saint-Thomas aujourd'hui. Bonjour Edwige. Edwige Saint-Thomas, êtes-vous là? Je ne vous entends pas. Edwige, m'entendez-vous?
Allô?
Oui, c'est Edwige. Non, ce n'est pas Edwige. Mais écoutez, on va passer à autre chose, peut-être un peu de musique. Avec le duo Blundetto et Ken Booth, on écoute le titre Have a Little Face, issu de l'album Slow Dance.
So cold, and the nights are so long, and I just need this little woman who I could call my very own. But some of her friends told her bad things about me, and I just need this little woman to believe in me and have a little faith. Oh, on a Sunday afternoon, I took one look at that woman's face, and don't you know that everything was cloudy. She said she had a call from someone that she knew. They told her bad things about me, and I knew it would. Teardrops falling from your eyes. Faith, this has been a good thing. Keep the faith.
Voilà le duo Blundetto Ken Booth pour Have a Little Face. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci de nous être fidèles. Merci à toute l'équipe du service Amérique de RFI. Je rappelle notre site internet www.rfi.fr et notre page Facebook Journal d'Haïti et des Amériques. Très très bonne journée à tous et à demain.